Radio Okapi.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Radio Okapi. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute. Restez avec nous pour ne rien manquer. Commençons tout de suite par le titre. Urgence sanitaire à Mwanda, 14 cas de choléra, dont 3 décès. L'épidémie importée de la province angolaise de Soyo sévit depuis 2 semaines. Les équipes médicales sont mobilisées pour contenir l'épidémie. Tragédie sur la rivière Wamba. Une mère et ses 3 filles périssent dans un naufrage. La pirogue heurte un bac en panne sous une tempête violente, mettant en lumière les dangers de transport de fortune pour les populations riveraines. Les écoles occupées par les familles sinistrées des inondations seront libérées et assainies ce week-end, permettant la reprise de cours dès le lundi. Le ministre provincial de l'éducation de Kinshasa, Jeannot Kanno, promet une relocalisation rapide des sinistrés. Découvrez les détails de ce processus dans son interview exclusive avec Radio Okapi. Il est notre invité. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Commençons tout de suite avec cette première nouvelle. Le sénateur Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, est arrivé hier à Goma, dans la province du Nord Kivu, une région actuellement sous le contrôle de rebelles de l'AFC M23 et de leurs alliés rwandais. Selon nos sources, il a franchi la frontière entre la RDC et le Rwanda en début de soirée à partir de l'entrée connue sous le nom de Grande Barrière reliant les villes de Gisenyi au Rwanda et Goma en RDC. Le 8 avril dernier, Joseph Kabila avait annoncé dans une lettre adressée à Jeune Afrique qu'après 6 ans de silence total, une année d'exil et face à la détérioration de la situation sécuritaire, il avait décidé de rentrer immédiatement en RDC par la partie orientale du pays afin de contribuer à la recherche de solutions. Au Congo central, au cours de 2 dernières semaines, 14 cas de choléra, dont 3 mortels, ont été signalés dans la zone de santé de Mwanda. Cette information a été partagée par le médecin chef des zones de santé de Mwanda à Radio Okapi. Le docteur Philippe Souela a expliqué que l'épidémie a été importée de la province angolaise des Soyo, voisine du territoire de Mwanda. Cette province est en proie à une épidémie de choléra depuis plus de 2 mois. Actuellement, les équipes médicales et celles du programme national de l'hygiène aux frontières sont mobilisées pour soigner les malades et contenir l'épidémie. Écoutons le docteur Philippe Souela, médecin chef de zone de santé de Mwanda, au micro de Nana Pleuriche Mambou.
Le cas index que nous avons reçu a présenté une diarrhée, des vomissements et puis une déshydratation. Jusque maintenant, nous avons 14 cas, dont 4 décès. Nous avons fait de prélèvements, nous avons envoyé au niveau du laboratoire provincial de santé publique et c'est positif à la souche Ogawa. Nous savons que la province voisine du pays voisin a commencé à enregistrer des cas de choléra. Ça fait déjà 2 mois. Et généralement, l'épidémie de Mwanda, c'est une épidémie qui est importée. Nous voulons dire à la population de respecter les mesures hygiéniques, le lavage des mains de façon continue, de ne pas toucher les habits, la peau, les sécrétions des malades souffrant de diarrhée, vomissements et déshydratation. Et si jamais une personne est en train de présenter une déshydratation, déjà commencer avec le sérum de réhydratation orale avant d'arriver à l'hôpital.
Retour au Nord Kivu. Jusqu'au 19 mars, plus de 206 000 personnes retournées dans le territoire de Masisi ont reçu une assistance alimentaire du programme alimentaire mondial PAM. Les bénéficiaires incluent les retournés des Sake, Chacha, Kirutche et Bweremana, ainsi que les déplacés de Lubero, Masereka et Moussienene. Cette aide est cruciale pour ces familles, leur permettant de reconstruire leur vie après une année de déplacements forcés. Les distributions comprennent des rations, des nourritures, des bases comme du maïs, des haricots, de l'huile et du sel. Cependant, certains déplacés de familles d'accueil du territoire de Nyiragongo se sont oubliés et délaissés. Jean-Étienne Bosseni-Boimé, président de l'ONG locale Akapeda Zabouri 133, a exprimé ses préoccupations à ce sujet.
les acteurs humanitaires distribuent des vivres et non-vivres au retourner ailleurs, en oubliant la population du territoire de Nyiragongo qui avait recueilli les déplacés dans leurs champs, ainsi dans les familles d'accueil. Signalons également que toute la population du territoire de Nyiragongo avait fui la guerre. Notre mécontentement, les ONG quittent Goma en passant par le territoire de Nyiragongo pour aller faire la distribution des aides humanitaires ailleurs, en oubliant que tous nous sommes en difficulté sur le plan socio-économique. Sur ce, nous demandons aux ONG telles que PAM, FAO, Mercy Corps, World Division, Concern et autres organisations de voir comment orienter ces aides dans les territoires de Nyiragongo.
Contacté, le PAM a déclaré que les distributions alimentaires se poursuivront la semaine prochaine pour les autres retournés sur les axes Rutshuru et Nyiragongo afin de répondre aux besoins de toutes les populations affectées. Dans la même province, hier vendredi, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise a dirigé sa première parade au stade du 15 octobre dans la ville de Beni depuis son installation dans la capitale provinciale provisoire. Devant les différentes unités de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo a souligné l'importance de certaines valeurs essentielles pour les policiers, la discipline, le respect mutuel, la collaboration, l'exécution rapide des ordres et le patriotisme. Il a également mis en garde ses hommes contre la trahison, le tribalisme et les abus envers la population civile. Écoutons le commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Makambo au micro de Marc Marufimbo.
Nous avons rappelé à nos hommes la mission de la police et aussi nous leur avons dit que pour qu'on soit efficace, il faut la discipline. On a rappelé aussi le patriotisme à nos hommes pour qu'il n'y ait pas trahison dans nos rangs. Et aussi, nous les avons rappelé que nous devons travailler en partenariat avec la population parce que actuellement c'est une coproduction de la sécurité. Tous, nous mettons la main dans la pâte pour que la paix revienne. Actuellement, la sécurité n'est pas que l'affaire des forces de défense et de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, la population, les autorités et même la police. C'est normal que nous puissions coopérer, nous puissions collaborer avec la population pour la sécurité de notre nation. Nous disons qu'une fois vous trahissez votre sort, vous le connaissez, on n'a pas des nations. Vous trahissez le Congo, c'est pour devenir qui? Vous serez esclave. Voilà pourquoi nous appelons à tout Congolais de ne pas trahir sa nation.
Il est à noter qu'au cours de cette parade, le commissaire provincial de la police a exprimé sa reconnaissance envers plus de 300 policiers venus de Goma qui ont démontré leur patriotisme en refusant de rejoindre le rang des rebelles du M23. Restons à Beni. Une cinquantaine d'agents pénitentiaires de la prison centrale des Kangwaï suivent une formation depuis hier vendredi qui se déroule sur 2 jours. Cette formation porte sur les techniques d'intervention, d'autodéfense et de maintien de l'ordre en milieu carcérale, organisée par l'unité d'appui et l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Beni. Elle vise à améliorer la coordination interinstitutionnelle entre les acteurs de la sécurité en milieu carcéral en les formant aux techniques d'intervention adaptées à cet environnement spécifique. Tchongo Makelele, directeur de la prison centrale de Beni, explique l'importance de cette formation au micro de Marc Marufimbo.
Les agents pénitentiaires de la prison de Beni sont capacités en technique d'intervention et maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire. Mais cela aussi s'ajoute la prévention des incidents dans les milieux carcérales. C'est vraiment un besoin ressenti. Vous savez, la prison de Beni est située dans une zone opérationnelle et elle héberge des catégories de détenus ici des groupes armés et à chaque moment, des fois, elle est exposée à des attaques extérieures. Alors nous remercions sincèrement cette activité parce que ça capaciter le personnel pénitentiaire en matière de prévention des incidents. Donc, le personnel qui a subi cette formation, ils ont intérêt à s'approprier ces méthodes pratiques qui doivent les édifier dans la façon de travailler. Et donc, on est déjà capacité à prévenir les incidents. Ça doit diminuer le risque des incidents dans des prisons.
Comme annoncé précédemment, 4 personnes d'une même famille perdent la vie à la suite d'un naufrage survenu jeudi soir sur la rivière Wamba dans la province du Kwango. Il s'agit d'une mère et de ses 3 filles qui revenaient du champ. D'après le vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile, la pirogue qu'il transportait s'est renversée après avoir heurté un bac en panne sous une forte tempête. Ces fondriens Kwango attribuent ces drames à la non-opération de ces bacs de l'office de route pendant plusieurs années. Pour lui, les moyens de transport de fortune constituent un danger permanent qui guette les populations riveraines. Le point avec Irène Bomaluzolo.
D'après le vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango qui livre cette information, ce naufrage est survenu dans la soirée de jeudi à 2 km du village Imbela situé dans les territoires de Popokabaka. Lors d'une averse accompagnée d'une forte tempête, au moins 11 personnes en provenance du champ ont pris le risque de traverser la rivière Wamba à bord d'une pirogue qui s'est renversée après avoir cogné un bac en panne. Symphorien Kwengo explique.
Le piroguier a perdu le contrôle de la pirogue. Entraînée par le courant, celle-ci s'est renversée en heurtant le bac. Le bilan fait état de 4 morts, dont une maman et 3 fillettes âgées respectivement de 8, 11 et 13 ans.
Il en appelle à la réhabilitation du bac en panne afin de sauver des vies humaines.
À la direction provinciale de l'office de route du Kwango de réparer le bac qui est resté depuis des dizaines d'années en panne. Si ce bac était opérationnel, cette maman et ses 3 enfants n'allaient pas mourir. Elle allait traverser en toute sécurité.
La société civile du Kwango déplore les dégâts matériels enregistrés après cet accident, dont le nombre de rescapés est porté à 7. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Sud Kivu, l'ASBL de défense des droits des journalistes et des activités de droits humains, partenariat pour la protection intégrée PPI, exprime son inquiétude face à l'absence prolongée et non justifiée du journaliste émérite Amissi Masuda du média en ligne Debout RDC.net basé à Bukavu. PPI indique que émérite avait reçu des menaces, des morts anonymes sur son téléphone quelques jours avant de disparaître, tant au sein de sa famille que de sa rédaction. Selon le directeur de l'ASBL partenariat pour la protection intégrée, aucun numéro n'a appelé jusqu'à présent pour exiger ou revendiquer quoi que ce soit. Jonathan Magoma considère cet acte comme une grave atteinte à la liberté de la presse dans la province du Sud Kivu. Écoutons ses propos.
À PPI, nous avons été saisis par Amissi et par sa rédaction qu'il recevait des menaces des numéros inconnus qui le contactaient sur WhatsApp depuis le 10 avril 2025. Et ce numéro lui promettait le pire, promettant également la même chose à sa rédaction. La personne derrière le numéro se faisait passer pour un général d'armée, soit de l'armée régulière ou soit de Wazalendo, parce qu'il disait que Amissi et les gens de la rédaction, ce sont des traîtres. On ne peut pas écarter la possibilité d'une diversion, mais on doit tenir compte du degré de la menace, qui était vraiment un degré très élevé, parce que le numéro a promis la mort aux journalistes. Et curieusement, 5 jours plus tard, le journaliste qui sortait de chez lui, il ne plus rentré. C'était même au moment où il était en train de mettre en œuvre le plan de sécurité conçu pour lui, malheureusement. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons exiger, c'est justement que les autorités de l'AFCM23, qui gèrent la ville de Bukavu, puissent mettre en place des enquêtes pour que les journalistes soient retrouvés et qu'ils nous reviennent en vie. Parce que, carrément, c'est mettre de la panique dans les camps des journalistes indépendants.
Dans le Haut-Katanga, la 9e édition de l'Expo Béton se tient actuellement à Lubumbashi, dans l'enceinte du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. De nombreux stands ont été installés présentant des produits issus des divers secteurs. Quelles sont les attentes des participants à cette Expo Béton RDC? Réponse dans ce reportage de Paulin Munanga.
Constance Kabedi, administrateur général de G5 Couture, spécialisé dans la confection sur mesure des tenues de travail de tout genre et secteur, explique le pourquoi de la présence de son entreprise à Expo Béton.
Nous sommes venus à Expo Béton pour attirer le maximum de clients, avoir une grande notoriété, nous faire connaître également dans le secteur de Lubumbashi et même au-delà, dans la RDC entière, afin de pouvoir fournir des tenues de travail made in DR.
Genovic Mwepu de l'entreprise Umbaji expose des œuvres d'art en malachite. Il espère qu'Expo Béton va donner un plus à leur entreprise.
Notre objectif de venir ici à l'Expo Béton, premièrement, c'était d'abord la visibilité de l'entreprise. Mis à part la visibilité, nous envisageons aussi de faire des partenaires avec quelques entreprises qui pourront nous accompagner sur les fonds, sur les subventions et autres, envie de mettre en valeur notre culture africaine.
Le responsable marketing de la compagnie CAA explique comment il accueille une personne qui visite son stand. Guillaume Niembo.
On salue la personne, bonjour, voilà, on leur demande s'ils sont intéressés d'avoir des infos sur CA, ou bien on se jette à l'eau, on se présente directement, on présente nos produits et services. On distribue les flyers qui donnent des informations sur nos services.
Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ONG Médecins Sans Frontières alerte sur la situation au Soudan. Depuis l'assaut du 11 avril par les forces de soutien rapide sur le camp de Zamzam dans l'est du Darfour, du nord, les humanitaires à Tawila ont observé un afflux de 40 000 personnes en détresse. Près de 500 000 personnes y avaient trouvé refuge. Du 11 au 13 avril, le site des déplacés des Zamzam a en effet été la cible d'un déluge de feu. Les forces de soutien rapide défaites à Khartoum concentrent leurs efforts sur Zamzam. Les vidéos montrent des exécutions sommaires des civils, y compris d'enfants. 9 employés de l'ONG Relief International sont parmi les victimes. Selon les forces de soutien rapide, le site abritait une base militaire de forces soudanaises. D'après un rapport de l'OCHA, près de 400 personnes ont été tuées à Zamzam entre le 11 et le 15 avril, dont 12 humanitaires.
L'invité.
Dans cette édition, nous accueillons Jean Cano, ministre provincial de l'éducation de la ville-province de Kinshasa. Il assure que les écoles actuellement occupées par les familles sinistrées de récentes inondations seront libérées dès ce week-end et assainies, permettant ainsi la reprise des activités scolaires dès lundi, après les vacances des Pâques. Jeannot Cano s'entretient avec Trio Banzé. Suivez.
Monsieur Jeannot Cano, bonjour. Après les vacances de Pâques, les élèves reprennent les cours ce lundi. Mais qu'en est-il des écoles qui hébergent les sinistrés des inondations qui ont frappé récemment la ville de Kinshasa?
Vous savez aussi que la ville de Kinshasa a connu ce qu'on appelle une catastrophe naturelle, avec plus ou moins 40 000 ménages touchés. Et nous avons des sites éventuellement dans deux stades que nous avons ici, notamment le stade de Tata Raphaël et le stade de Martyr. Mais malheureusement, ces gymnases ne peuvent pas contenir le nombre de personnes. Alors, sur instruction du gouverneur de la ville, il fallait réquisitionner quelques écoles, notamment l'Institut Lumumba et l'Institut Kitomessa à Kisenso, toutes les deux écoles dans la province éducationnelle de Moamba. Nous avons quand même pu placer quelques familles. Nous nous préparons pour délocaliser déjà tous les sinistrés et nous avons déjà trouvé un site de transit dans le stade municipal à Bandal que nous avons aménagé. À la minute où je vous parle, nous sommes en train de placer déjà deux lits. Ça va commencer ce soir. Nous allons délocaliser le nombre de personnes qui sont à Lumumba pour les placer éventuellement à Bandal. Et ceux de Kisenso, nous allons les placer en Célé.
Oui, monsieur le ministre, vous parlez de 40 000 ménages. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ces chiffres très inquiétants?
Parce que nous avons un comité qui suit éventuellement les sinistrés. Nous savons aussi qu'il y a d'autres sinistrés qui ne se sont pas inscrits jusqu'à présent. Nous le savons, mais les inscrits, là, je vous le rassure que nous avons déjà plus de 40 000 ménages. Quand on parle de ménages, on parle de famille. Donc, il y a papa, maman et enfant.
Combien d'écoles hébergent actuellement les sinistrés des inondations?
Au départ, il y avait plusieurs écoles, mais nous avons regroupé tous ces mondes-là dans deux écoles, notamment à Limété, à l'Institut Lumumba, et puis à Kisenso, à l'Institut Mesa.
Quelles sont aussi les dispositions que vous avez prises pour l'assainissement de ces écoles?
Bon, déjà, pour votre information, j'étais avec mon collègue, le ministre provincial de la Santé, équipe avec tout son comité, et ils m'ont rassuré et que dès lors que nous allons délocaliser tous ces sinistrés, le samedi, le travail sanitaire va commencer. Nous allons désinfecter le samedi et le dimanche, ce sera déjà fin prêt. Et je vous rassure que le lundi, les enfants vont reprendre les écoles sans problème.
Est-ce que ces inondations qui ont frappé sur la ville de Kinshasa ont eu un impact négatif sur d'autres écoles de la capitale?
Bien entendu. Dans la province éducationnelle de Moamba, par exemple, 65 écoles étaient touchées, notamment Limété, Kisento, Amatete et à Mongafula. J'ai connu 29 écoles qui étaient touchées, éventuellement Massina, dans la province éducationnelle de Ntiangou. Il y en a 3 écoles qui sont touchées.
Et qu'est-ce que le gouvernement provincial, notamment votre secteur de l'éducation, pense par rapport aux enfants dont leurs parents ou leurs ménages sont affectés par les inondations? Vous ne voyez pas que ces enfants risquent aussi de ne pas reprendre les cours ce lundi?
Nous avons tout prévu, c'est-à-dire dès lors que nous allons les délocaliser, dans les sites où nous allons les placer, les écoles avoisinantes seront appelées à prendre ces enfants en charge. Donc j'ai déjà eu une réunion avec mes directeurs de province hier, avec mes IPP éventuellement. Ils m'ont déjà fait la meilleure des propositions, donc nous allons vraiment placer. Et surtout que nous avons pu recenser ces élèves, que nous avons la facilité de les placer dans des écoles.
Est-ce que vous avez des précisions sur le nombre exact de ces enfants?
Effectivement, nous avons les chiffres exacts. À Tata Raphaël, j'ai 204 enfants entre 6 à 17 ans. Au stade de Martyr, j'ai 839. À Limété, Lumumba, 568. À Kitomessa, 445. Donc, c'est un chiffre vraiment que nous avons pu recenser et nous l'avons fait de mèche avec le ministère de la Santé.
Et maintenant, comment va se passer la prise en charge de ces enfants par rapport à leur retour à l'école?
Le service social s'en charge. Là, nous sommes là et le service sanitaire s'en charge également.
Les parents de ces enfants qui sont victimes des inondations vont continuer à payer les frais scolaires dans les écoles où ces enfants seront réintégrés?
Bon, déjà, vous le savez très bien. Ce sont des écoles de l'État où la gratuité de l'école primaire est déjà en marche. Donc, il n'y a rien à payer.
Est-ce qu'il y a une mesure d'exception pour ces enfants en rapport avec les kits scolaires, étant donné qu'ils ont tout perdu dans les inondations, monsieur le ministre?
Effectivement, il y a l'UNICEF qui nous donne déjà un coup de main et nous sommes sûrs d'être soutenus.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Jean Okano, ministre provincial de l'éducation de la ville-province de Kinshasa, s'entretenait avec Trio Banzé. Ainsi se termine notre journal sur Radio Okapi. Nous espérons que vous avez apprécié les informations et les reportages que nous vous avons partagés avec nous aujourd'hui. Ce programme a été mis en onde grâce au travail dévoué de Pierre Diassinois sous la coordination de Rosalie Zawadi avec la supervision de Jacques-Yves Molima, Gisèle Kaj à la présentation. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis et de votre fidélité à notre station. Restez à l'écoute de Radio Okapi pour des mises en jour régulières et des nouvelles fraîches. Excellente journée à tous.